littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Goldorak. Denis Bajram, Xavier Dorizon, Alexis Santenac, Brice Cossu, Johan Guillot.
Bonjour, bienvenue pour cette table ronde autour du héros de notre enfance. Il faut quand même le dire, je parle pour les gens qui ont connu Goldorak dans les années 80, c'est-à-dire les Quadras. Le reste, ben, vous allez découvrir, c'est pas grave. Bienvenue quand même. Donc, ils vont lever la main parce qu'ils ont été distribués dans le désordre. Donc on est en compagnie de Denis Bajram, on est en compagnie de Brice Cossu,
voilà.
Xavier Dorizon, donc qui va nous expliquer un petit peu l'envers du décor aussi avec ses petits camarades, Johan Guillot et Alexis Santenac.
Alors regarde, on les voit.
Alors on va.
T'es venu avec ton fan club ou quoi?
Bah oui.
C'est la taille, c'est proportionnel.
Ah mince, bon, c'est vrai qu'on risque de parler de taille dans Goldorak, effectivement. On va avoir quelques petites images qui passeront de temps en temps en arrière-plan, histoire de vous rappeler de quoi on parle. Alors je sais qu'on va, bon, on va pas refaire tout l'historique, est-ce que vous êtes pas trop fatigué? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est la méga cohue, quoi.
Je veux voir ma femme et mes enfants.
Ah, bon.
On est fatigué, oui. Oui, nous sommes fatigués.
Bah, tu sais, quand on a commencé il y a 5 ans, on savait que Goldorak, c'était quand même quelque chose de totalement magique, qui appartient à énormément de Français. Les 4 millions qui ont acheté le disque de Noël à l'époque, c'est pas rien. Et il n'y a pas que ces gens-là. C'était à la fois enthousiasmant et hyper inquiétant, parce qu'on pouvait être accueilli avec des pierres, si on passait à côté, si on trahissait, si on faisait pas ce que les gens voulaient qu'on fasse. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a plutôt rendu heureux la majorité de ces gens-là, donc c'est assez génial. Mais c'est complètement incroyable, hein, parce qu'on n'est pas assez... Par rapport à ce qu'on vit d'habitude dans nos carrières professionnelles d'auteur de BD, on a l'impression d'un seul coup d'être au Stade de France, quoi. Donc c'est un peu étonnant et assez mouvant même, souvent.
Ouais, de partir d'un travail solitaire sur son ordi ou sur sa table à dessin et puis se retrouver au milieu des foules. Tu parles de la figure de Goldorak qui appartient à tous les Français. Alors juste pour repréciser, on ne va pas refaire tout l'historique, hein, de la figure de Goldorak, mais un petit peu d'historique déjà, de savoir comment ça s'est passé. Là, je crois qu'on a un extrait de la lettre que Xavier a adressée à Nogai et qu'il y a quelques petits mots, moi, qui m'ont bien percuté à l'intérieur et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Mais, entre guillemets, l'exclusivité française de Goldorak, ça, on n'est pas au courant, en fait. Nous, en tant qu'admirateurs ou lecteurs ou jeunes, ou moins jeunes, entre guillemets, victimes de Goldorak de l'époque, on ne le sait pas que le succès de Goldorak, il est spécifiquement important en France, en fait, à ce moment-là.
Oui, parce qu'en fait, Goldorak, c'est avant tout une histoire française, curieusement. C'est-à-dire que Goldorak n'a pas eu tellement de succès au Japon, tout simplement parce que Alcor, donc, qui est le faire-valoir d'Actarus dans Goldorak, était en réalité le héros de deux séries qui avaient précédé Goldorak, qui étaient Mazinger et Mazinger Z. Et le public japonais n'a évidemment pas apprécié de voir que son héros se retrouvait simplement en faire-valoir d'un nouveau venu. Bref, Goldorak, ça n'a pas marché du tout au Japon, alors que les Japonais avaient mis des moyens considérables pour faire cette série. Et en revanche, en France, ça a été un délire total. C'est-à-dire que Denis l'a rappelé, 4 millions du 45 tours de Noam vendus, la couverture de Paris Match, 100% d'audience sur France, enfin Antenne 2, comme on disait à l'époque. Et puis des polémiques en veux-tu, en voilà, sur Goldorak dangereux, pas dangereux, faut-il laisser nos enfants devant Goldorak? La star des jouets de Noël 79, 80, 81, il n'y avait plus de jouets Goldorak à partir du mois de novembre. Enfin, un phénomène, mais quasiment unique. Ça s'est jamais vu, en fait, un phénomène pareil. Goldorak sur les verres de moutarde, dans les journaux, enfin, dans les camemberts, dans les vaches qui rient. Moi qui détestais le fromage, j'avais demandé à ma mère d'acheter des vaches qui rient, parce qu'il y avait un autocollant Goldorak dedans. J'ai jamais mangé le fromage.
Ce qui est étonnant, c'est que ces années-là, la même année, il y a l'autre énorme licence qui arrive, c'est Star Wars, mais alors qui à l'époque touche les gens un petit peu plus vieux. Donc en fait, il y a des tonnes de jouets qui se mettent à se vendre, etc. Mais alors il y a deux catégories d'âge. Il y a les ados qui sont sur Star Wars et les enfants qui sont sur Goldorak. Et dans les cours d'école, nous, Star Wars, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est Goldorak et uniquement Goldorak. Il faudra qu'on grandisse pour découvrir Star Wars. Donc, et les deux, à l'époque, je pense que Goldorak est plus énorme que Star Wars en France. Alors que Star Wars, c'est pas rien en France quand ça arrive. Mais on est sur un phénomène complètement délirant, parce qu'à ces âges-là, à 8 ans, là, le niveau de passion, il est proportionnel à la faiblesse de la taille. T'as plus aucune passion, toi.
Alors, dans la note d'intention, il y a un mot, alors juste pour resituer un petit peu l'historique, hein, je crois que tu es à la base du projet, Xavier, même si je pense que par le biais de tes mots et de tes premières intentions, tu as porté tout l'amour de tes collaborateurs là, vers Goldorak, et tout était dans la note d'intention. Mais à un moment donné, tu parles de rentrer en Goldorak comme on pourrait rentrer avec tout le respect dans un temple. Et ça a fait écho un petit peu à une discussion que tu as eue sur les géants de fer, à savoir la représentation archétypale du géant de fer, quoi, en fait, hein, de ce que ça pouvait représenter. Comment vous êtes rentré avec respect dans cette aventure, quoi ? Parce que comment est-ce qu'on s'essuie les pieds 30 fois avant de rentrer là-dedans, non, j'imagine ? On ne sait pas comment l'aborder.
Alors, je crois qu'on va être plusieurs à répondre, parce qu'on ne l'a pas tous vécu de la même façon, en fait. Le respect, je pense que pour toute personne qui reprend une licence préexistante ou des personnages préexistants, le mot est peut-être plus optimiste et moins matérialiste, mais disons, quand vous reprenez une histoire ou des personnages que vous n'avez pas créés, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez déjà être dans l'imitation, bon, ce qui n'a pas été notre cas, ne serait-ce parce qu'on changeait de média, ou alors vous pouvez décider de porter un regard spécifique sur ce nouveau personnage que vous allez aborder. À partir de là, l'idée, normalement, en tout cas pour nous tous, c'est au moins d'être respectueux. Donc l'avantage, ce qu'on avait, c'est qu'on avait tous décidé de faire une suite. Donc au moins, on n'allait pas toucher avec ce qui existait avant. Mais après, il s'agissait de ne pas abîmer les personnages. Les abîmer, c'est-à-dire leur faire des choses qui ne correspondraient absolument pas à la nature qu'ils avaient dans la série initiale. Donc, par exemple, Actarus n'allait pas se mettre à taper des enfants, Alcor à voler dans les supermarchés, et à Procyon vendre de la drogue. Vous voyez, ça n'aurait pas matché, ça. En tout cas, ça aurait été une vraie trahison des personnages. Pour autant, il faut apporter quelque chose. Et pour conclure, moi, j'ai apporté ça avec, en tout cas, une forme d'enthousiasme, d'optimisme, et en me disant... Bon, t'es auteur depuis 20 ans, comment tu traites tes personnages en général ? Qu'est-ce que t'en fais ? Fais-le avec, alors, peut-être les mêmes erreurs ou les mêmes qualités, peu importe, mais fais-le avec la même lucidité et le même enthousiasme que d'habitude. Et donc, moi, j'ai vécu ça avec, on va dire, avec de l'énergie.
Ouais, nous, à l'atelier, donc Brice et moi, on est en atelier ensemble depuis 12 ans maintenant. On a déjà commis des bouquins ensemble avant. Et nous, notre technique, c'est un petit peu celle-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne réfléchit pas, on baisse la tête, on y va avec tout l'amour, tout le respect qu'on a pour Goldorak, quoi.
Oui, et puis en plus, je pense qu'on avait la même démarche tous les cinq, mais pour nous, c'était évident qu'on ne voulait pas forcément revoir la série pour être trop imprégné vraiment directement des images, et plutôt se rappeler du souvenir, de l'émotion que ça nous provoquait, et simplement de se servir des images en temps voulu s'il y a vraiment un besoin technique, par exemple pour l'OVTR, si on a besoin de se souvenir, parce que moi personnellement, en plus, ouais, les mécas, c'était pas ma grande force.
Ouais, on est tous restés concentrés sur l'émotion. On a essayé de travailler avec le regard d'un enfant de 8 ans, mais le savoir-faire d'un auteur qui te fait de la BD depuis 15 ans, quoi.
Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, par contre, là où il y a toujours eu cette énergie, moi, il y a quand même une forme de pression qui s'est mise à partir d'un moment. Au moment où, je crois que c'est en 2020, quand on en a parlé
la fin, vraiment. Heureusement.
Oui, voilà, c'était plutôt vers la fin. Quand ça a été révélé au public, je crois que c'était à Angoulême, en 2020. Et on a commencé à avoir un petit peu tout le... On s'en doutait un peu, mais de voir à quel point, en fait, ça touchait vraiment toute une génération. Là, on se dit, ouais, OK, donc là, il y a une pression qui est en train de se mettre, même si on s'en doutait. Voilà.
Quand on travaille sur quelque chose que personne n'a vu, une seule image, et que juste en disant, on va faire une bande dessinée Goldorak, et que les réseaux s'enflamment, là, on se dit, on va... OK, en fait, on n'est pas les seuls à aimer Goldorak comme ça, et ça représente quelque chose pour beaucoup de gens. Et heureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé pour nous sur... après avoir travaillé sur la plus grosse partie de la première session d'ancrage qu'on a fait, même si après on a
vous aviez plus un peu
exagéré, mais on était sur des retouches. Parce que je pense que sinon on aurait pu être écrasé un petit peu par ça, parce que ce qui est assez étonnant avec ce livre et ce projet qui nous tient tous les cinq là, c'est que à chaque fois qu'on passe une étape, ça grossit. Et c'est dingue.
Juste une petite question avant qu'on attaque dans le dur, mais il y a quand même... c'est pourquoi vous, en fait ? Pourquoi cette team-là ?
Parce qu'on est tous des potes.
Voilà, comment ça s'est goupillé ? C'est l'amitié avant tout, ou ça a été un choix, entre guillemets, d'efficacité ?
C'est de ma faute, là. Je vais avouer mon crime. Quand Xavier a présenté le projet... Enfin, en fait, il a raconté une histoire à la con à son éditeur, en fait. C'était après, genre qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Ah, moi je voudrais faire un Goldorak, et puis il ferait boum, et puis voilà. En gros, en plus sophistiqué, parce que Xavier n'est pas totalement aussi idiot qu'on a l'air de le faire croire, mais en gros, c'était quand même le garçon de 8 ans qui était dans un repas avec un éditeur et qui a raconté ce qu'il rêverait de faire sur un Goldorak. Il s'avère qu'on a depuis découvert que c'était un piège, ce repas, parce que son éditeur Christelle Oulance, merci, qui est notre
éditrice de Cana et Lombard.
C'est parce que j'ai dit éditeur en fait que j'ai fourché
ça,
après,
c'est voilà. Ça. Notre éditeur c'est Timothée.
Voilà, notre éditeur c'est Timothée. Christelle en fait était depuis 5 ans sur un projet. Elle avait envie de que les personnages de sa propre enfance, parce qu'elle est notre génération, elle avait envie chez Cana de réussir à faire des livres un peu exceptionnels autour, comme ça, des sortes de résurrections entre guillemets. Et évidemment, quand elle croise Xavier, ça fait tilt, et elle dit à Xavier, écoute, moi, Gonagai, je peux entrer en contact avec lui. Et là, Xavier se fait, oups, il faut que j'ai un dessinateur quand même, parce que bon, j'ai progressé ces derniers temps, mais je suis principalement scénariste. Alors il me contacte, parce qu'on se connaît depuis, c'est pour ça que je le blague comme ça, on se connaît depuis 30 ans. Ouais, je pense qu'on va bientôt pouvoir se trahir, oui. Comme tout ami de 30 ans qui se respecte. On a vraiment commencé ensemble. Hein. Moi, j'ai été professionnel un tout petit peu avant lui, donc j'avais l'aura du professionnel à ses yeux, mais dans le fond, on était deux gamins en train de commencer. Et il savait que j'adorais Goldorak, donc il s'est jeté sur moi. Et puis, je crois qu'on avait envie de bosser ensemble depuis longtemps, hein, peut-être, on peut le dire. Et il s'est jeté sur moi. Alors, il y a la moitié de mon cerveau qui a fait « t'as pas le temps ». Ça a duré une demi-seconde. J'ai laissé tomber parce que pour Goldorak, tu as toujours le temps. S'il faut déblayer 3 ans de ta vie, tu les déblayes. Alors, les lecteurs d'Universal War savent que ça a eu des conséquences sur mon travail habituel. Il y en a.
Petite dédicace.
Ils sont deux, trois.
Et puis surtout, la deuxième chose qui m'est venue immédiatement en tête, c'est que je ne suis pas capable de le faire. Déjà, peut-être impressionné par, en effet, le temple sacré qui était Goldorak. Le connaissant très bien en fait, et j'avais vraiment réalisé que c'était un Everest à grimper au niveau visuel. Parce qu'en fait, s'il y a un truc que je sais faire, c'est de la SF. Je sais faire une ville détruite par un robot géant qui tape dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans Goldorak, c'est vraiment pas ça. Il y a ça, évidemment. Mais la moitié ou les trois quarts de Goldorak, c'est des gens qui partagent des aventures et voire des drames en commun. C'est fait avec toute la culture magnifique du personnage qu'il y a dans le manga. Et je ne parle pas en caricature de gros yeux, petit nez, mais une manière de faire jouer les personnages qui est vraiment propre au manga et à l'anime japonaise. Je ne me voyais pas du tout essayer de m'approprier ça. Et je me disais que si je faisais carrément du réalisme comme je le fais moi, on allait perdre une partie de l'essence de Goldorak. Et j'ai tout de suite, à cause de ça, pensé à Brice. Parce que Brice, en l'occurrence, depuis 20 ans, il essaie d'acclimater cette culture-là dans la BD franco-belge. Et il le fait extrêmement bien dans son propre travail. Et puis, de l'autre côté, j'ai vu un deuxième énorme problème, c'est que je fais de la SF Art Science, en tout cas visuellement. Et Goldorak, c'est pas ça. Goldorak, c'est des extraterrestres dans des soucoupes rondes avec des oreilles pointues. Il y a un côté quand même SF beaucoup plus pop, beaucoup plus noir à des moments aussi que ce que je fais moi. Il faut descendre dans le dark, dans le aliens quasiment, dans ce genre de choses. Et tout ça, on le voit sur l'image qui est derrière, tout ça, c'est des choses que je peux faire, mais j'avais encore une fois peur de me lancer dans une imitation un peu imbécile. Et il s'avère que Alexis, qui est en atelier virtuel avec nous, c'est au contraire exactement sa force. En 2 minutes à Angoulême, tu te souviens, Xavier, je t'ai dit, ouais, moi je veux bien, mais faut que j'y aille avec 2 copains. Quoi. Et il s'avère qu'il était à Angoulême, donc j'ai réussi à attraper Alexis, qui a fait tout de suite oui.
Bah oui, tu nous fais peur, nous on a dit oui.
Et on a attrapé Brice le lendemain.
Ouais, enfin non pas le lendemain, en pleine nuit, parce qu'il m'appelle, moi j'étais pas en Angoulême, et du coup ils m'ont réveillé. Mais je l'ai appris, en fait, moi je l'ai appris deux jours après. Mais moi j'ai mis 12 heures avant de capter, et ça a été, ouais. Et après c'est allé très vite. Voilà.
Et puis donc pour faire rapidement ce début d'histoire, on a monté donc Christelle Lance de Cana à aller au Japon. Je ne parle pas de lui, ce qui n'est pas intéressant.
Qu'on montre deux, trois trucs à Gonagai, parce que j'y vais le mois prochain. Ouais.
Donc en fait, on a fait rapidement deux planches d'essai. Brice a fait des personnages. Toi, tu t'es occupé de Vega. Moi, j'ai fait un Golgoth. On a fait une fausse couverture. Tu as fait une lettre d'intention. Et puis un premier synopsis, on va dire. Une première histoire. Et puis, on a envoyé ça à Gonagai.
Avec deux pages couleurs aussi.
Traduit voilà. En japonais.
Donc deux pages couleurs et tout. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, on va essayer d'en piéger un cinquième. Donc, à l'atelier virtuel, on lui a montré, parce qu'on était quasiment sûr qu'il allait nous faire des remarques. Et qu'à partir du moment où il ferait des remarques, on pourrait l'embarquer dans le projet. Voilà. Raconte comment tu t'es fait piéger.
C'est tout à fait ça. Ils m'ont montré leur page, c'était superbe, parce qu'en fait, ils sont tous très très bons en couleur en plus. Donc, voilà. Et puis moi, je vois ça, je me dis, tiens, là, c'est bien, mais il y a moyen de faire mieux. Et puis, bon, bah tiens, bah, prends tes crayons, viens avec nous.
Fais-le parce que t'es si malin,
ouais, c'est exactement ça. Et puis après, bon, bah, moi, j'étais content, en fait, parce que j'étais un peu jaloux qu'il fasse ça. Donc, tant mieux, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés ensemble. Et puis, ça a nourri quelque chose qui, en fait, ce que moi, j'apportais, en plus, c'était une vision pop des couleurs. Denis, lui, a une vision souvent très réaliste et très, très ancrée dans un réel sombre. Moi, j'apportais quelque chose de dynamique, plus, on va dire, Star Trek, enfin, plus Goldorak, en fait. Et du coup, voilà, je complétais bien l'équipe.
On peut faire sans toi pendant encore une heure, mais
non, je suis en train de me dire que je vous écoutais parce que c'est passionnant et du coup j'ai oublié que j'étais le modérateur et pas le gamin de 8 ans dans le public en fait. Alors du coup la répartition du boulot, parce que j'imagine qu'au départ effectivement ça se répartit, mais qu'après ça se floute gravement, j'imagine.
Mais ce dont Denis t'a parlé, donc ouais. En l'occurrence qu'il est venu, moi pour les personnages, Alexis pour le côté SF pop, c'était uniquement pour le dossier. Après,
voilà,
dans l'album,
ça, après ça a explosé en vol quoi.
Après dans je parle uniquement de la partie dessin, mais en même temps tu verras que scénario et couleur tout se répond tout du long de l'album. Mais nous ce qu'on voulait c'était se dire qu'on est trois dessinateurs. Avec Alexis on l'a déjà fait plusieurs fois, mais du coup là on était trois et on s'est dit mais comme on se connaît bien, l'idée c'était que ça soit un auteur à la fin. C'est une espèce de fusion d'un hybride de tout ce qu'on connaît justement.
L'entité,
on va dire. Oui voilà c'est ça, le super groupe, le super dessinateur ou pas quoi, bref. Et qui finalement nous ce qu'on voulait convoquer c'est un petit peu toutes ces influences là. On voulait, si on arrivait à retrouver dans ce qu'on faisait dans nos pages, le franco-belge, le comics et le manga, on avait gagné. Donc on s'est lancé dans l'exercice. Il a fallu pas mal de temps pour qu'on se règle. Hein, vous pouvez confirmer, les amis.
Moi, c'est le moment où j'ai eu le plus peur.
Ouais.
On a quand même tenté comment dire ça très précisément. Ce qu'on a décidé de faire, c'était infaisable. On met pas trois dessinateurs qui font tous les trois le style des autres en même temps, etc. Ça, c'est une très mauvaise idée. Surtout quand dans le principe n'est pas d'obtenir le minimum. Commun des trois, mais d'obtenir le maximum commun des trois. Et on a vraiment été très loin. Et moi, pendant assez longtemps, je m'en étais ouvert à Xavier à l'époque, j'ai cru qu'on n'était pas en train de réussir à accoucher du truc.
Ce qui est marrant, c'est qu'on s'en est aperçu une fois qu'on a commencé à faire un peu de promo, à discuter comme ça, les gens nous posent des questions, on répond tout ça. Et ce que tu dis là, on s'est aperçu qu'on avait tous vécu la même chose, parce que Brice et moi, on a eu cette discussion-là ensemble aussi. On a passé de longs mois vraiment à flipper parce qu'on se dit où est-ce qu'on va, est-ce qu'on veut vraiment tous avoir le même ton, est-ce qu'on a tous la même vision du projet vraiment, est-ce qu'on va y arriver.
Puis la matière prenait, on savait que la matière prenait pas vraiment.
C'est ça, c'était
choses,
pas quoi. Encore ça.
Et pareil pour
les. Et là où ce qui est assez sympa, c'est qu'au final, chacun a réussi à en parler un petit peu à celui qui connaissait depuis le plus longtemps, à s'exprimer là-dessus, mais il n'y a eu aucun mouvement de panique en fait. On ne s'est pas à un moment dit non mais ça va pas, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de truc. On a continué à y croire malgré ça tout le temps. Et au final, on a réussi à régler le problème, mais c'est vraiment marrant de voir après coup, comme on a eu tous la même période de flip, en fait.
Il faut avouer que visuellement, et on pourra parler de l'histoire aussi, parce qu'il y a eu, ces questionnements-là, ont pu avoir lieu avec l'histoire, même si on était beaucoup plus au clair, je pense, au démarrage, tous sur la direction. Visuellement, on se retrouvait avec un robot qui a été conçu en 1975, qui est un peu l'accomplissement d'une lignée de robots, puisque en effet, c'est la suite de Mazinger Z et de Great Mazinger, qui est magnifique en termes de robots, mais qui est quand même un design de l'époque d'avant de la SF. En gros, il fait partie de l'époque pop de la SF, des designs équivalents, c'est la fusée de Tintin. On retrouve même sur le centre de Procyon les mêmes quasiment effets de rouge et blanc comme ça. Donc la fusée à carreaux comme ça, très aérodynamique. C'est Star Trek avec les soucoupes volantes, avec des réacteurs derrière. C'est une soucoupe volante, hein, Goldorak. Hein. On est encore complètement dans l'idée de la soucoupe. C'est une idée des années 50. Hein.
C'est n'importe qui va voir l'armée avec un projet de robot géant, d'arme de guerre, en lui disant voilà, il est rouge, bleu et jaune, je pense que l'armée rigole, quoi.
Et Alcor, il vole dans une soucoupe volante. Enfin, on est sur une vieille SF par beaucoup de côtés. Alors, c'est la version la plus moderne de ce qu'on peut faire à l'époque, mais quand même, c'est extrêmement daté. Et surtout que c'est extrêmement daté, parce que comme on le disait, il y a Star Wars qui arrive en 77, deux ans après. En France, les deux arrivent en même temps. Et Star Wars tourne une page complètement dans la manière de représenter de la SF. D'un seul coup, les vaisseaux commencent à être rouillés, ils ont l'air d'avoir été construits dans des usines. On peut sentir la sueur des ouvriers, on peut sentir les dommages qui ont été faits pendant la bataille.
Et la SF avec le déclin technologique.
Oui, avec même un côté SF usé. Toutes ces choses-là changent totalement notre manière à tous de faire de la science-fiction. Et on fait pas. Et voilà, dans le manga, ça finit par donner Shiro, Akira, etc. C'est une rupture totale. Et nous, on se retrouve avec cet objet de 75, j'allais dire de 1950. J'ai souvent dit, cette Cadillac de 30 mètres de haut, elle est quasiment rose, hein, et qui marche, quoi. Et on se retrouve à devoir y faire croire en 2020, alors qu'on a eu Avengers et compagnie.
Ça, c'est l'objet de longues discussions préalables, ou ça s'est fait au fil de l'eau, le fait de la réactualisation, que ce soit de l'histoire, que ce soit des caractères, que ce soit des personnages, ils ont vieilli. Il y a la nostalgie qui est passée par ici.
Pour le robot, ça a été rapide.
Toute la Bible, elle s'est faite bien en amont.
Alors, il y a deux choses, en fait. Parce il faut d'abord qu'on conclue. Avant de te répondre, il faut qu'on conclue sur cette histoire. Parce que mes amis ont raconté comment on a galéré, en fait. Mais moi, j'aimerais quand même, avant de te répondre, te dire comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé où, en fait, je pense qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. L'objectif, c'était, comme ça a été dit par Brice, que cinq auteurs finissent par fonctionner comme un seul. Et c'est vrai que sur une bande dessinée, en général, vous avez souvent un scénariste, un dessinateur, parfois un auteur qui fait tout. Et quand vous en avez ne serait-ce que deux auteurs, c'est très important. En fait, la clé pour que la bande dessinée ait une chance de bien fonctionner, c'est qu'ils fonctionnent en harmonie, qu'ils veulent aller au même endroit, de la même façon, avec le même ton, et qu'ils aient en tête exactement la même histoire. Si vous n'avez pas ça, la bande dessinée ne peut pas marcher. Ce sera trop orienté dans un sens ou dans un autre, ce sera pas bon. Et nous, il fallait pas faire ça à deux, il fallait faire ça à cinq, et ils vous ont expliqué que pendant un long temps, c'était compliqué. Moi, j'aimerais vous raconter une toute petite anecdote sur la fin, qui montre comment ça a fini par marcher. En fait, dans le scénario, la bande dessinée s'arrêtait deux ou trois planches avant celle que vous aurez peut-être entre les mains. Et voilà, c'était le scénario, ça plaisait à peu près à tout le monde.
Une bonne fin.
Voilà, on était contents. Et puis, c'est pas le scénariste, c'est les autres auteurs qui réfléchissent et qui disent « Ouais, mais nous, on sent qu'il manque quelque chose. » On a une intuition.
Pour être précis, en fait, on a fait tout l'album en storyboard. Donc, vous en avez des exemples là. Donc, c'est très précis. Ça permet de lire l'album. Et au moment où on a lu ce qu'on avait réalisé, c'est là qu'on s'est posé les questions.
Ouais. Et là, c'est eux qui sentent vraiment. C'est même pas réfléchi, vous voyez, c'est senti. Ils disent « Ah, ça va pas. » Alors en plus, moi, en tant que scénariste, on m'a appris à commencer le plus tard possible et à finir le plus tôt possible. Il faut vraiment réduire son histoire. Donc moi, j'ai fait mon job, mais eux, ils se disent que le job, il ne suffit pas. Ils ont une intuition là-dessus. Et donc, je crois que c'est Denis qui dit, tiens...
C'est dans l'atelier, là.
C'est dans l'atelier. En fait, justement, c'est ça qui est intéressant, si on ne sait plus qui a fait quoi. Ils disent, mais si on pourrait rajouter deux pages, on a une idée. Tiens, on pourrait prendre celle qu'on avait mis en page d'essai, mais on changerait le dialogue. On la referait aussi, parce que quand même, on va la refaire. Et puis aussi, Denis a dit, tiens, on pourrait rajouter une dernière planche. Alors, il fait ça. Donc, il écrit, en fait. Puis il me la montre, je dis, mais c'est une super idée, en fait, c'est génial. Puis bien sûr, je dis, ouais, mais bon, là, tu me connais, je suis pénible, alors je vais refaire des dialogues. Alors, on rechange les dialogues. Et puis, bien sûr, les Brice, alors Brice, Alexis, Johan, disent, ouais, mais là, ta réplique, peut-être qu'on pourra la rechanger. Boum, et on la rechange.
Et puis, Johan, peut-être, a dit, mais attendez, là, en fait, vous avez mis trop d'encre à cet endroit-là.
Ah non, attends, il a fait beaucoup mieux, Johan.
Ah ouais ? Vas-y.
Je ne sais pas si tu as réalisé. Bah,
j'étais pas forcément là.
Comme on a vu toute l'histoire sur le médaillon de fort qu'on a corrigé dans le reste de l'album, c'est lui ou toi, je ne sais plus, il propose l'idée que le gosse, à la fin, on ne dévoile rien, porte le médaillon de fort. Donc toi, on en est à des choses.
Donc
à
c'est le coloriste qui rajoute des idées au scénario. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Et c'est super. Et au final...
En fait, c'était Brice. Voilà, on ne sait plus du tout qui a fait quoi.
Dites-vous, voilà. Vous voyez, on a tous eu cette idée, en fait.
Voilà. Et quand on en arrive là, eh ben, là, on sait, en tout cas, on ne sait pas si on va faire un bon album, ça, personne ne le sait jamais. Mais vous savez que vous avez réussi à fonctionner comme un seul auteur et que les problèmes que vous aviez au départ pour faire tout tienne, ceux-là, ils sont résolus. Bon, donc ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième ?
Mais quelle est la deuxième partie, Xavier ?
Je ne sais plus.
La deuxième, la répartition des rôles, ça, on a vu. Est-ce que ça prend plus de temps, déjà ?
Non, plus de temps. Horriblement plus de temps.
Horriblement plus de temps.
Alors, s'il y a des auteurs dans la salle, ne faites pas comme nous.
C'est tout ce que l'industrie dit qu'il ne faut pas faire, qu'on a fait.
Je voulais juste réagir après Xavier. Il y a eu des trucs qu'on j'aime. Enfin, je ne pense pas qu'il ait été fait dans d'autres albums, dans l'organisation qu'on a eue. Une fois que j'avais fait la couleur sur certaines pages, en discutant avec Denis, il m'a dit « Mais attends, ce que tu as fait là, c'est superbe. Et l'ancrage gage ce que tu as fait. Quoi. Allez, on repasse sur l'ancrage. » Pour bien mettre en valeur la couleur. Ça n'arrive jamais en BD. Alors, c'était juste pour continuer le propos de Xavier, pour dire qu'il y a vraiment eu des allers-retours comme ça, et même jusqu'à la fin. Xavier, là, dans cette bulle, on a remarqué que ça, etc. Ah oui, bon, bah, d'accord, on change. Enfin,
oui, parce qu'en fait, bon,
aller-retour incessant.
Normalement, une bande dessinée, si vous voulez, c'est vous faites un synopsis, un résumé très court. Ensuite, vous pouvez faire, si vous avez le temps, un séquencier qui raconte ce qui se passe dans les principales scènes. Ensuite, vous faites un scénario dialogué. Là, vous envoyez quelques pages dans l'exposition où on précise ce qui se passe dans 5-15. Vous passez au storyboard, à l'ancrage, enfin au crayonné, à l'ancrage, puis à la mise en couleur. Et vous ne revenez pas, vous voyez, c'est comme quand vous faites un chantier, vous faites les fondations et vous terminez par la peinture. Quand vous en êtes à faire la peinture des murs, vous ne dites pas, tiens, et si on refaisait les fondations de la maison ? Ben nous, si. Voilà, donc ça a été vraiment un des processus finalement assez original.
Parce qu'après, j'imagine quand même que pas mal d'auteurs qui font leurs dessins, leurs couleurs, grâce au numérique... arrivent quand même à retoucher leur ancrage parfois quand ils arrivent à la couleur et tout. J'imagine que ça doit arriver à d'autres. Le seul truc, c'est que nous, on était plusieurs. Et donc parfois, ça impliquait que cette petite retouche-là faite par un autre dégage autre chose qu'un autre d'entre nous va voir et dit « Ouais, mais regarde, du coup, là, on a fini ce trait-là. Mais du coup, celui-là, là, complètement à gauche de la case, c'est plus trop raccord. Donc on retouche. Donc, et jusqu'à ce que chacun soit content. Donc fatalement, non, on n'a pas gagné de temps du tout.
Enfin, je pense qu'on a passé trois fois plus de temps que si on l'avait fait en répartissant les
points. De toute façon, on a chacun passé au minimum le temps. Enfin, moi, personnellement, même par rapport à d'autres albums, j'ai passé plus de temps personnellement sur des pages de Goldorak qu'avant. Parce que c'est Goldorak et que tu te dis, c'est le projet, tu vas le faire qu'une seule fois dans ta vie. Donc, on y va, quoi. Et on a tous fait ça. Donc, en temps de travail, on a tout explosé.
Pour aucun d'entre vous, c'est un énième album.
Non, c'est enfin là, à l'heure qu'il est, pour moi, c'est le album.
C'est plus qu'un album, c'est une expérience. Hein, au-delà c'est vraiment une expérience. Quand je dis ça, c'est moi, j'ai pas souvenir d'avoir entendu quelqu'un qui a bossé comme ça en BD. Et comme on disait, on souhaite pas. Enfin, c'est une belle aventure humaine parce que nous, on est copains, mais en même temps, on aurait pu ne plus être copains après cette expérience-là. Mais au contraire, heureusement, ça nous a rapprochés vraiment. Mais Tu parlais de temps parce qu'on est là, on dit que ça a duré longtemps. Voilà, faut se figurer que le projet, c'était quand on parlait d'Angoulême avec Xavier, c'était en 2016. On est en 2021, c'était 5 ans de travail. Avec forcément entre nos albums ou d'autres activités, notamment Denis qui avait des activités syndicales, etc. à l'époque, c'est 3 ans et demi complet de travail sur l'album.
Et alors, du coup, le rapport avec le Japon, parce que j'imagine que ça se passe pas uniquement entre vous et l'éditeur français, quoi.
Non, en fait, c'est là où notre éditeur Kana a eu un rôle énorme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, d'une part, les Gonagai et ses équipes ont été un peu échaudés de leurs expériences françaises, dans la mesure où dans les années 70, vous le savez sans doute, mais il y a eu beaucoup de jouets, beaucoup de produits dérivés Goldorak, et ces produits étaient pirates. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont fait de l'argent sur le dos des auteurs. Et ils l'ont appris très tard. Vous savez, à l'époque, voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook. Prendre l'avion Paris-Tokyo, ce n'était pas si simple que ça, finalement. Et ils ont découvert très tard à quel point Goldorak était un phénomène en France et à quel point beaucoup, beaucoup de gens leur avaient caché. Et donc, il y a eu un vrai sentiment de trahison qui n'a pas facilité les relations entre les maisons d'édition françaises et japonaises. Et il a fallu que certains éditeurs, comme ceux de Kana, Ichflirf initialement, puis Crystal Lowlands qui a repris le flambeau, aillent vraiment reprendre leur bâton de pèlerin, retournent au Japon, recréer des ponts, recréer de la confiance. Et vous savez ce qu'on se dit, hein, la confiance, ça se monte à l'escalier, ça se descend en ascenseur. Hein. Donc ça a été très long, et c'est elle qui a littéralement permis que Goldorak soit possible. Il ne s'agissait pas simplement de prendre notre dossier et de l'amener sous le bras à Gonagai. Hein. C'est beaucoup plus que ça, c'est ouvrir les portes, comprendre comment marchent les négociations avec les Japonais. Et à partir de là, une fois que le projet a été accepté, dans un temps record, hein, Gonagai, il a vu le projet, il a répondu une dizaine de jours plus tard. À l'échelle de la vitesse de décision du Japon, c'est la vitesse de la lumière. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça, en fait, chez Kana. Et ensuite, l'accord qu'on a eu avec eux... Alors d'abord, on a eu de l'enthousiasme. Hein, si on n'avait pas eu l'enthousiasme de l'auteur, vous imaginez, un Gonagai qui vous dit, voilà, OK pour un 75e épisode de Goldorak et je vais le confier à des Français. C'est juste... Nous, on n'en revenait pas. C'était Noël, plus le jour de l'an, plus l'anniversaire. Bon. Mais à partir de là, il a dit, forcément, moi, je veux tout voir. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire, par exemple, l'exposition que vous voyez là aux Utopiales de Nantes, elle est arrivée jusqu'à Gonagai, il l'a vue, il l'a regardée, il a dit, OK, c'est bon. Et nous, on a envoyé tous les dessins, tous les croquis, bien sûr le scénario, les storyboards, les pages complémentaires, absolument. Et c'est dans cet esprit de maintenant on va être hyper, hyper, hyper réglo qu'on a travaillé avec eux grâce à Kana.
Et bien, tu parlais de, à un moment donné, tu as parlé de pagination. En fait, tout était. Non, tout était. On a resté à compléter.
On a rajouté 18 pages.
Dans l'album, il y a tout l'aspect petite cuisine.
Alors, on rigole de ça parce que on en parlait encore ce midi avec notre éditeur de Kana Kella, qui a vu le nombre de pages augmenter. Et qui en gros était obligé de normalement on présente les livres en disant 126 ouais, pages ouais. Et puis la semaine d'après c'était alors cet album de 136 pages puis 6 mois après cet album de 140 pages et en fait on a rajouté 20 pages complètes
20 pages d'histoire
dans le truc. Alors il y a parfois c'est parce qu'on voulait avoir la place pour faire pour le spectacle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand on a une pagination un petit peu libre. On a créé vraiment une scène complète, plus la scène finale. On a créé deux scènes complètes. Ça, c'est extrêmement rare dans un livre. Parce qu'encore une fois, au moment du storyboard, si on n'avait pas l'émotion, moi, en gros, le storyboard, à chaque fois que je n'avais pas les poils, c'était de la merde.
Est-ce qu'on vient voir les versions de la couverture ?
Oui, il y a plusieurs versions de la couverture. Et je pense qu'on a tous été comme ça. Alors, je ne sais pas quels étaient les rapports. Moi, c'était l'émotion, le guide au storyboard.
Ah bah,
si j'étais pas le gosse de 8 ans devant l'épisode, donc le.
Moi, c'est au-delà de Goldorak, c'est mon leitmotiv en BD. C'est-à-dire qu'il faut que je me fasse ressentir les émotions sur le storyboard. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Et comme on a tous fait ça, à des moments, on a identifié des manques. Alors, des manques dans le dessin, des manques dans la manière de faire l'action, évidemment, des manques dans le jeu des personnages. On a modifié beaucoup de jeux de personnages. Des manques dans des choses qui étaient, par exemple, qui étaient réglées un peu trop dessin animé dans le scénario. C'est amusant, le scénario était assez réaliste, mais il y avait des scènes qui étaient très marquées par le dessin animé, et des choses qui passent dans le dessin animé passent pas en BD. S'amuser à faire un saut depuis une fenêtre dans une soucoupe qui est 20 mètres en dessous, en dessin animé, c'est emporté par le montage, tu fais pas trop gaffe. En BD, t'as le truc devant toi et tu fais, tiens, lui, il va mourir. Oui, donc, enfin, elle, en l'occurrence, et puis avec le bébé qui est dans ses mains.
On a eu aussi des scènes où vraiment on a tenté. Bon, faut savoir que quand on disait la masse de travail, on a pu faire jusqu'à 6 ou 7 versions de storyboard sur une même page, hein, je parle. En général, on était plutôt autour de 3-4. Il y a eu des moments vraiment où on a essayé, puis on n'y arrivait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une page qu'il fallait faire, mais deux. Donc il a fallu qu'on prenne la même scène et qu'on la scinde en deux pages.
Ou qu'on change les dialogues. Parce que d'un seul coup, par rapport à ce qu'on a fait avant, à la manière dont on jouait les personnages.
D'où les 20 pages.
D'où les 20 pages de plus, d'où les réécritures de dialogue sans fin pour Xavier.
D'autant que c'est amusant parce qu'on vous parle beaucoup de storyboard, mais parce que bon, pour nous, c'est un peu notre cuisine tous les jours. Mais il faut réaliser qu'en fait, une bande dessinée, c'est pas du dessin, c'est pas du dialogue, c'est du storyboard. C'est-à-dire que le moment où naît une bande dessinée, c'est au storyboard. Si vous voulez, quand vous êtes dans le scénario, vous êtes dans la gestation, en fait, vous êtes dans la préparation. Et quand vous êtes dans le dessin, la couleur, allez, si on fait une métaphore à deux balles, vous êtes dans l'éducation. Mais la naissance, c'est le storyboard.
Je t'arrête deux secondes. Vas-y. Regardez le copyright qu'il y a sur l'écran, là, qui est le copyright qu'il y a dans le livre. Comme on a envoyé le projet en 2016, le temps que les contrats soient signés avec le Japon. Donc le livre, il a un copyright de 2017. Il sort en 2021.
C'est vrai.
Ouais. C'est le truc qui prouve la folie de boulot que ça a été, quoi. Ça n'arrive jamais, normalement, d'avoir un copyright aussi décalé, quoi.
Et à propos de folie, vous pouvez nous parler de votre petit mois de promo qui vient de passer, là ?
Waouh ! Commencez.
Just waouh !
C'est... Ouais. C'est vrai que c'est un mois assez exceptionnel. On parle volume, bien sûr, mais qui est lié évidemment au personnage de Goldorak. Moi, ce que j'avais jamais vu à ce point-là, et peut-être que vous l'avez ressenti peut-être en voyant l'album ou l'expo, c'est que Goldorak a ça de spécifique qui fait naître une émotion commune chez tous ceux qui ont participé à cette aventure. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que littéralement les gens qui revivent un peu Goldorak à travers cet album, eh bien, ils communient. Il communie dans une émotion qui n'est pas que de la nostalgie, qui est dans la tristesse qu'on pouvait avoir ou la joie qu'on vivait dans certains épisodes, dans ce sens de l'évasion, ce sens parfois chevaleresque. Et tout d'un coup, cet ensemble d'émotions renaît chez les gens qui reviennent à Goldorak. Et on se retrouve là. Un peu, vous savez, c'est comme quand il y a une Coupe du Monde de foot. On communie tous autour du fait qu'on est content d'avoir gagné. Bon, on n'a pas joué, on n'a pas été sur le terrain, peu importe. Mais
on n'aime pas le foot, même. On n'aime pas le foot.
Mais enfin, nous, bon, mais c'est pas grave, peu importe. Mais surtout, on est tous contents d'être. On communie parce qu'on est dans la même émotion et dans le même moment. Et j'ai jamais. Enfin, voilà, moi, c'est mon témoignage. C'est j'ai jamais vu autant de communion d'émotions dans les files d'attente de dédicaces chez les journalistes qu'on rencontre autour de Goldorak. Et ça, c'est vraiment unique. Et à vivre, c'est absolument génial.
On a vu des gens avec des étoiles dans les yeux. Et on a une anecdote un peu particulière sur la première semaine de promo. Il y avait, on a eu deux fois des gens qui ont dormi devant la librairie, devant laquelle la veille au soir. Ils sont
on arrive le matin, on dit il y en a quatre, ils sont là depuis 23 heures hier soir.
Et une des fois, c'était cinq frères. Ils avaient dormi pour avoir leurs cinq collecteurs le lendemain matin. Il reste cinq collecteurs, ils sont cinq frères, c'est parfait. Ils viennent d'Espagne. Ils découvrent qu'il y a le type juste derrière eux vient d'Algérie, qu'il n'aura pas son collecteur. Tiens, il y a un des cinq frères qui lui donne son collector parce que c'était plus important pour lui que le type qui vienne de loin soit heureux plutôt que lui ait un objet. Quoi.
Et se partager, c'est...
Ça, bah, on est plus habitué à voir des gens se battre pour des signatures sur une carte postale. Ouais. Mais
on sent l'émotion.
Ouais, c'était vraiment fabuleux. Et surtout, le mec était...
C'est incroyable.
...était heureux de pouvoir faire plaisir à un autre passionné du truc. C'était vraiment génial.
Ça ressemblait à un scénario de Goldorak. Non, mais il y a de l'amour là, de la terre, les fleurs, tout ça. Enfin, cette espèce de capacité à l'amitié entre les hommes.
Parti et jouer de la guitare après.
Ouais. Non, en plus, au même endroit, genre un quart d'heure après, il y a une chorale qui a commencé à chanter juste le générique. Après, ouais. Nous, générique, on a commencé à faire.
Ah bah oui.
C'est ça. Non, je transpire des yeux, tout va bien.
Je transpire des yeux.
Et en fait, j'allais dire, c'est moi pour corroborer tout ça, je partage exactement ce que dit Xavier, ce que dit Denis, ce que disent Denis et Yoann. Et il y a vraiment, moi, il y a un truc. Bon, tu vas le dire après, tu vas dire ton truc aussi, enfin, toujours. Et c'est de se faire remercier pour un livre. C'est-à-dire que ce soit des lecteurs ou que ce soit les copains auteurs, machin, qui t'envoient un message en te disant, mais pas juste vraiment, ah, c'est super ton bouquin, c'est cool. C'est merci.
Oui,
simplement merci. Merci d'avoir m'avoir remis des étoiles dans les yeux, de m'avoir fait pleurer, de m'avoir fait revivre ces émotions-là. Voilà. Et ça, moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça en BD, même si, bon, je suis encore jeune auteur, mais malgré tout, ça fait 15 ans quand même que je fais des albums. Voilà, je n'ai jamais vécu ça, et je ne sais pas si je revivrai un truc comme ça, clairement.
Mais avant même que l'album sorte, en fait, il y avait les libraires et les journalistes qui avaient déjà une version, et on a eu des retours de mails merci, franchement, merci. Enfin, ils n'étaient pas obligés, hein, mais...
Et surtout, ils ne font jamais ça. Quoi.
D'habitude, ils ne font pas ça.
Ouais. Je n'ai jamais reçu un merci de la part d'un journaliste.
C'était très libraire. Étonnant, on ne sait pas comment réagir.
Alors, on a merci quand on leur a fait une dédicace, ou quand... pas parce qu'ils ont lu un livre. Quoi. Enfin, c'est...
Alors, vu que vous disiez que Goldorak appartient à tout le monde, on va passer peut-être aux questions, parce que je pense qu'il peut y avoir quelques... questions.
Hein. On va passer à tout le monde.
On va passer à tout le monde. Et alors, juste, moi, j'ai quand même une petite question, puisque là, il y a la lumière dans la salle, donc on est un peu plus proche de vous, parce que les
projets,
c'est sympa, mais on vous voit un peu mieux. Qui a vu Goldorak à l'époque, quand il est passé à la télévision ?
Oh bah, ça fait beaucoup. Après, qui a vu Goldorak ? Il y a eu 3 diffusions, hein, quand même. Donc, qui a vu Goldorak en 78, par exemple ?
Ah, quand même.
Je peux laver la même aussi ou...
Bah oui, j'allais dire, c'est sur scène. Donc, qui a vu Goldorak en 82? Parce que vous pouvez rester 78, vous pouvez lever la main hein, si vous voulez regarder 3. Et donc, qui a vu Goldorak en 87? Ouais, ça va, bon, c'est plutôt logique.
Bon, je ne vous demanderai pas qui a acheté Goldorak en 2021, ça je vous laisserai le découvrir plus tard.
Alors là, personne ne lève la main, mais tu quoi?
Alors donc, s'il y a des interventions, des questions, des témoignages, des remerciements, n'hésitez pas à lever la main.
Des critiques?
Ah, alors je crois que là, il y a des petites mains gentilles qui vont courir avec des
micros. Ça arrive, les micros courts.
Bonjour et merci.
Alors, levez la main parce que, juste pour qu'on vous repère.
Pardon, salut. J'ai juste une petite remarque parce que je suis en train de réfléchir dans ma mémoire et de me dire comment j'ai vu Goldorak, sachant que moi je n'avais pas la télé chez moi, je ne le voyais que chez mes grands-parents, et je m'aperçois que j'ai vu Goldorak par bribes.
Ouais.
Mais que le peu de bribes que j'ai eu de Goldorak, le peu de choses que j'ai eues, je pense que Goldorak en fait est rentré dans un imaginaire collectif. C'est une espèce de Madeleine de Proust qu'on s'est soi-même inventée, mais on a toujours cette fabuleuse image de cette espèce de robot géant qui se bat contre, enfin qui était quelque chose d'assez nouveau pour nous en tant que petits Français. Et je crois que ça a tellement impacté notre esprit. Enfin, moi, je me revois jouer à Goldorak en cours de récréation, enfin, Fulgur au point, Astéro H, etc. Qu'on a, c'est tellement ancré dans notre mémoire, c'est devenu une Madeleine de Proust de notre enfance. Et que de se dire, oh, on va enfin revoir ça. Mais quel bonheur, quel plaisir, quel kiff. Et je crois qu'à partir du moment où on parle à notre âme d'enfant, il n'y a rien de plus jouissif et de plus agréable. Donc pour ça, voilà, encore une fois, mille fois merci, parce qu'on redevient un gamin de 8 ans. Et quel kiff de se dire, j'ai de nouveau 8 ans, je suis de nouveau en train de reprendre un plaisir à regarder quelque chose qui était un plaisir de gamin. Et voilà. Donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est vrai que c'est la
Moi, je vais en profiter pour remercier le coloriste parce que moi, la télé était en noir et blanc. Non, c'est vrai.
On a une autre question là.
Oui. Merci pour.
Levez le bras. Ah voilà, merci.
Merci pour cette présentation du travail d'équipe. Effectivement, là, c'était intéressant de voir qui fait quoi et comment vous avez travaillé ensemble. Moi, j'avais une question un petit peu technique sur. La cohésion de l'ancrage, par exemple, ouais. Sachant que sur Franck ou Universal War One, c'est pas du tout.
Ça ne ressemble pas.
Les voilà, antipodes.
Alors, est-ce que vous avez mis en place une charte graphique voilà. Comment assurer une cohérence sur l'ensemble d'un album ?
Ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on a parlé justement des forces de chacun. Bon, en l'occurrence, pour le côté manga, Alexis et Denis sont très ancrés comics aussi. On a tous le franco-belge, ça c'est logique. Mais c'est des codes, même si certains en maîtrisent mieux ou moins que d'autres, on les a. On les a. L'ancrage que je fais sur Frunk, Alexis étant parfaitement en mesure de le faire, et Denis est parfaitement en mesure de le faire aussi.
Maintenant, oui. Je n'aurais pas dit ça il y a 4 ans.
Ah ouais, bon, pour moi, c'était... Voilà, c'était
non, justement. Toi, maintenant, oui. Maintenant, après, voilà, on a ensemble. Ouais.
On a bien sûr compris des choses en faisant l'album et on a mis du temps. On a beaucoup discuté entre nous. Il y a eu des fois où il a fallu qu'on digère certaines remarques. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai. Hein.
Et ton lactarius, ça ressemble à Riegel.
Après, c'est les joies du numérique aussi parce que du coup, le numérique permet à un moment d'avoir une espèce de vision d'ensemble sur toutes les pages. Et de s'apercevoir si à un endroit, l'ancrage a évolué dans un sens qui ne correspond peut-être pas au ton général de l'album. Et du coup, on peut revenir dessus.
On a vraiment été au point...
on ne s'est pas privé de le faire.
Sur l'ancrage et le côté définitif des planches, on a été au point à la page 90 à peu près. Et on a dû réviser encore une fois tout l'album depuis le début. Alors les 20 premières, ça a été l'enfer.
Ouais, les 20 premières.
Au bout de 20, on a cru qu'on était au point. Et puis réellement,
ça n'a pas duré.
Non, mais à peu près. Et puis à la 90, on s'est rendu compte qu'on était vraiment là. Ouais. Il y avait déjà des routines qui étaient rentrées, ce qui fait que ça unifiait. Mais surtout, on arrivait à aller plus loin sur plein de choses. Ouais, en fait.
Ouais. Mais comme l'a dit Xavier assez justement, on a essayé de satisfaire, au lieu de faire une petite démocratie pour que tout le monde soit un peu content sur ci, sur ça, on a essayé de satisfaire chacun des tyrans qu'il y avait en nous. Et en fait, tant que ce n'était pas le cas, on ne s'est pas arrêté. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ben, on arrive à avoir quelque chose d'assez cohérent. Le fait de ne pas sectoriser, de ne pas être un tel sur les décors, un tel sur les persos, un tel sur les méchants ou machin, fait qu'à la fin, tout est mélangé. Et c'est ce qui fait qu'en plus, on a beaucoup appris les uns des autres, quoi.
Qui a le micro ?
C'est moi. Là-bas. Voilà. Ah, oui. J'aurais une question dont la réponse sera peut-être très courte ou très longue. Mais est-ce que l'album est paru au Japon, va paraître au Japon ? Est-ce que vous avez des retours là-dessus ?
Ah ben écoute, la réponse va être courte. Pour l'instant, nous ne savons pas.
Ouais. Non, il n'est pas paru au Japon.
Après, il faut savoir un truc, c'est que les Japonais, un album en couleur de cette taille-là, pour eux, c'est un artbook. Donc, ils comprennent pas qu'on puisse faire un album comme ça, en vendre des milliers.
C'est pas leur culture, les livres comme ça.
C'est pas du tout leur culture de l'édition. Tel quel, c'est difficile à envisager.
J'ai un petit projet, je vais essayer de le travailler, mais j'aimerais bien qu'on arrive à le publier au Japon, mais en racontant l'histoire d'amour entre la France et le Japon qui s'est passée à l'occasion de Goldorak. Parce qu'en fait, c'est quand même incroyable, c'est le point de départ de tout un amour culturel, pop en l'occurrence. Peut-être que ça aurait démarré avec un autre manga ou une autre anime. Hein. En l'occurrence, c'est avec Goldorak que commence cette espèce de rencontre très forte entre les enfants français qui sont devenus adultes près et puis la culture populaire japonaise. Donc moi, j'aimerais bien qu'on arrive à le mettre là-bas et en plus à leur raconter à quel point c'est un moment d'amitié très fort entre les peuples, ce qui est quand même en ce moment toujours une bonne nouvelle d'avoir des amitiés très fortes entre les peuples.
Une question.
Ah. Oui, bonjour. Je m'interrogeais moi sur la genèse un petit peu du choix de Goldorak. Pourquoi pas Albator ou Ulysse ? Est-ce qu'il y avait aussi c'était purement nostalgique ou est-ce qu'il y avait aussi un choix esthétique qui au niveau de la BD vous paraissait plus intéressant par rapport au graphisme voilà, de l'anime de départ par rapport à un autre, en fait.
Alors, moi, je verrais déjà, par rapport à Albator, c'était déjà fait. Ça a été la première BD qui est sortie par Jérôme Alquier, qui a fait ça très, très bien aussi. Mais je pense que le choix de Goldorak, il était naturel, parce que malgré tout, on est là, on a l'air tous fringants, mais on n'est pas tous de la même génération. Et je pense que Goldorak est, pour moi, le seul qui nous a tous rassemblés, clairement. Il nous a tous marqués, tous les cinq. Moi, j'ai été marqué par les Chevaliers du Zodiac aussi, mais peut-être que Xavier et Denis, c'est pas quelque chose qui les a marqués pour autant, même si
Puis c'est surtout parti d'une envie au départ, quand Xavier parle de ce qu'il aimerait faire. Et puis
c'est la faute à Xavier.
Mais c'est pas rationnel, en fait. C'est-à-dire, honnêtement, à 49 ans, aller écrire Cornofulgure, Métamorphose. Faut être sérieux, quoi. Non, mais vraiment. c'est assez bizarre parce que quand je regarde, c'est un peu schizophrène, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, quand je regarde un épisode de Goldorak, il y a une petite part de moi qui dit non, mais attends. Déjà, pourquoi il n'utilise pas dès le départ Astéroïde Cornofulgure ? Pourquoi ils en mettent autant ? Pourquoi ? Et là, et immédiatement. Il n'y a quasiment que Goldorak qui me fait ça. C'est magique, mais vraiment que Goldorak. Il y a une autre voix qui fait, maintenant, la ferme, je regarde, c'est génial, tais-toi. Et cette voix-là, alors elle monte, et au bout de deux minutes, il y a la petite musique de Shunsuke Kikuchi, par exemple, en mode triste. Nanana, et puis alors moi, je commence à pleurer, et voilà. Et donc pourquoi on a fait ce choix-là ?
Parce qu'on est traumatisé.
Parce qu'on est traumatisé, juste parce qu'on adore. Et on adore toujours. C'est-à-dire que la nostalgie, ce serait. Par exemple, moi, il m'arrive d'acheter des vieux Strange. Et en fait, je les aime toujours autant graphiquement, mais les histoires, j'avoue, je marche plus en fait. Alors quand j'étais gamin, je pouvais les lire 30 fois de suite. Et c'est pas vrai pour Goldorak. Je peux revoir un épisode de Goldorak, je pense qu'on est tous comme ça, on adore toujours. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, ce serait, enfin, je pourrais essayer, mais ce serait faux.
C'est la magie.
Voilà. Et c'est juste parce que Goldorak, c'est magique pour nous, et c'est juste pour ça qu'on a envie de le refaire.
Et qu'on n'ira pas faire les autres?
Non, a priori, non. Non.
Il y a un monsieur devant qui lève la main.
Enfin, moi, il y en a d'autres qui me plaisent quand même. Hein.
Il est... Ah, ça y est, il est.
C'est bon, monsieur, ça arrive.
Ça arrive, ça arrive, enfin.
Ça arrive de l'autre côté. Fulgure au micro.
À court, micro de l'espace. L'espace.
Micro Fulgure.
Bonjour, j'y vais aussi de mes remerciements. Merci. Je fais partie de ceux qui l'ont vu en 78 et je pense que Goldorak, avec Star Wars et Rencontre du Troisième Type, c'est le trio de toute la fondation de mon imaginaire. Et j'avais une question pour vous, parce que vous aviez dit que finalement, vous avez essayé de ne pas les revoir et de vous structurer autour de vos souvenirs. C'est un bel exercice, mais je me dis que quand on est enfant, on a une mémoire très sélective. A-t-on tous le même Goldorak? Vous, est-ce que finalement, vous aviez le même Goldorak? Je sais que pour moi, Goldorak, ça me fait tout de suite penser à des moments très cruels, très tristes d'Actarus qui doit abattre quelqu'un pour qui il a énormément de respect et qui doit le tuer parce qu'il n'a pas d'autre choix, alors qu'en fait, c'est finalement un peu son égal ou l'enfant et son scaravageur. Enfin, pour moi, c'est beaucoup de moments extrêmement, extrêmement tristes, cruels. Et mes parents, quand ils voyaient ça, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu regardes? C'est pas de ton âge. » Et je me demandais si vous aviez tous, finalement, quand vous vous êtes rassemblés, est-ce que vous aviez tous le même Goldorak en vous, ou est-ce que
moi,
vous
je pense qu'on a tous notre Goldorak propre à chacun.
Alors déjà, c'était pas pour les enfants. Je suis assez d'accord. On est tous d'accord pour dire que pour la première fois qu'on était gamin, on était confronté à des thèmes, à des sujets très durs, très adultes, qui changeaient complètement de ce qu'on voyait à la télé. Et c'est aussi pour ça qu'on a sans doute été marqué dans notre chair par Goldorak. Parce que c'est la première fois qu'on a découvert la tragédie par beaucoup de côtés, tout ce qui peut travailler un être humain. Quoi.
Ouais, oui. Moi, j'ai pas mal fait de bandes dessinées pour enfants. Et à force de voir un peu ce qui se fait, je me rends compte que les enfants, ils aiment bien qu'on ne leur présente pas des trucs pour enfants. Ils aiment bien les choses qui les prennent pas pour des débiles. Et puis, dès qu'on leur raconte quelque chose qui a un peu d'intensité dramatique, où il se passe des choses, il y a des dilemmes, il y a des choses graves parfois. Alors, parce que des fois, même assez jeunes, ils aiment avoir un petit peu peur, un petit peu. Ils aiment tester des limites émotionnelles, des choses comme ça.
Mais ce que faisaient les contes depuis toujours. Hein.
Les contes, oui, tout à fait. Et Goldorak apportait ça. Il y avait un relief entre ce qui était joyeux, ce qui était dramatique, ce qui était parfois prenant. Enfin, il y avait un sens de l'honneur de certains personnages ou du respect même de l'adversaire, comme vous avez dit. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis en plus, il y a trois saisons. Et puis la première saison est très manichéenne, mais dès que se déploie la seconde saison, on arrive sur des problématiques. Enfin, les frontières se brouillent un petit peu. Par exemple, dans la troisième saison, on apprend que Actarus aurait dû se marier avec la fille du grand stratégaire. Donc en fait, là le manichéisme saute totalement, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a eu des traîtrises, des mensonges, tout un tas de choses qui ont provoqué des guerres. Et en fait, la série est beaucoup plus profonde qu'on pourrait l'imaginer pour d'un dessin animé pour enfants.
Et pour la différence entre nos Goldorak, moi ça m'inquiétait au début, et je trouve qu'on était quand même vachement d'accord tous, hein. Il y a quand même une sorte de Goldorak commun, d'Actarus commun.
Je pense que dans Goldorak, ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'il y a assez de matière pour qu'on puisse chacun piocher ce qui nous correspond propre, mais il y a aussi assez de scènes ou d'images iconiques très très fortes sur lesquelles on se rassemble absolument tous, quoi. Ce qui fait qu'on arrive tous à se l'approprier.
Puis il y avait des manières quand même différentes de regarder le personnage. Xavier a fait énormément confiance à ses souvenirs, toi aussi.
Ouais, ouais.
Moi, en l'occurrence, mes souvenirs étaient très nets, parce que je l'avais revu moins de 10 ans auparavant. Ouais. Et en plus, j'avais continué à lire des choses dessus. La tendance geek à acheter des jouets. Hein, donc, j'ai fait un peu le contrôle technique. C'est marrant, on a découvert récemment qu'il y a une scène qui fait référence à une scène de dessin animé. Xavier est paralysé, en fait. Et quand on avait travaillé dessus, moi, c'était évident que c'était une référence à cet épisode avec les monstres Goth. Le premier, et Xavier, en fait, ah oui, en fait, oui, d'accord.
Ah oui, c'est qu'en fait, j'ai écrit une scène complète,
Et il y a 15 jours, je revois un épisode encore. Et pendant que je fais mon sport, je me dis, tiens, je vais me revoir un épisode. Et là, je dis, mais en fait,
ça vient de là, ouais. C'est vrai.
Et je l'avais complètement oublié parce qu'en fait...
Pourtant, c'est un des épisodes traumatiques pour beaucoup de gens.
Ah bah oui, c'est l'épisode où Goldorak combattait le monstre goth. Donc c'est l'épisode où il se bat, vous savez, contre une sorte de gorille géant transformé. C'est ouais. Génial. Parce
un monstre goth.
Un monstre goth.
Il y en a d'autres après.
Ouais, il y en a d'autres après.
On voit le spécialiste. Et ce qui est
fabuleux d'ailleurs, c'est qu'on voit aussi comment au même moment, les auteurs japonais avaient mélangé l'influence qu'ils avaient du moment, c'est-à-dire King Kong. En gros, on voit bien, il y a un des scénaristes qui avait dû regarder King Kong 15 jours avant et il s'est dit, tiens, c'est génial, on va faire King Kong meets Goldorak. Et c'est les mêmes scènes. Hein. C'est-à-dire, vous prenez King Kong qui prend Jessica Lange qui la monte sur le toit du building et vous avez le monstre God qui prend Vénusia et qui monte sur le haut du building. C'est hallucinant. Et eux, ils arrivent à rendre ça cohérent. Et le monstre God, en plus, avait arraché le bras de Goldorak. Et tout ça, en fait... et ensuite, Goldorak est en réparation. Et moi, j'avais écrit ça naturellement dans l'album. Ça me paraissait faire sens. Et en fait,
nous, on a une scène, comme on avait fait un des premiers dessins avec ce fulgure au point abandonné dans l'eau, on s'était juré qu'on avait trouvé un moyen, parce qu'on aimait notre propre dessin, on avait trouvé un moyen de séparer le fulgure au point de Goldorak. Et donc, tu as écrit toute la scène, entre autres, pour qu'il perde son fulgure au point et qu'on rentre le réparer. Et en fait, moi, je m'étais dit, quand j'avais reçu ce scénario, j'ai fait, ouais, génial, c'est une allusion sans être la même chose. Enfin, pas du tout, c'était un souvenir qui était remonté comme ça, de manière inconsciente.
Mais en fait, pour la question de savoir quel Goldorak on allait faire, c'est là encore où il faut être un auteur unique, même quand vous êtes cinq. Et quand vous refaites une licence et qu'à nouveau, vous n'êtes pas en mode imitation, c'est même le Goldorak que vous avez en tête et son unicité, c'est même le seul point d'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est faire revivre Goldorak, mais c'est comment vous le voyez. C'est pour ça qu'on dit que c'est un album vu par ou un hommage. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous demandait de faire un dessin de ce verre. En lui-même, le verre, il faut admettre... Bon, Goldorak est un verre qui a beaucoup d'intérêt, mais ce verre, beaucoup moins. Mais admettons qu'on vous demande de dessiner ce verre, l'intérêt, c'est comment vous allez le regarder. Est-ce que vous le regardez de là? Est-ce que vous le regardez de là? Comme ça, comme ça. Et c'est ça le seul point intéressant. Et donc, il fallait que nous... 5, on arrive tous finalement avec des petites marges d'erreur, mais à regarder le verre du même angle et qu'on se dise que cet angle était intéressant.
Était
le meilleur pour nous. Il n'y a pas d'absolu, non, évidemment, là-dedans.
Meilleur dans l'absolu.
Bon, alors meilleur dans l'absolu, si tu veux, mais. Et voilà, et ça pouvait se faire soit en étant un spécialiste de la série, et c'est vrai que par exemple, Johan, lui, a vérifié, et d'autres en ayant plus des correcteurs derrière qui ont vérifié, que tout était cohérent, ou alors en partant de votre souvenir. Mais c'est votre point de vue au final, ce qui compte, c'est quel est votre point de vue.
Moi, j'ai une toute petite question avec une petite réponse rapide, si c'est possible. Et on prendra une dernière question dans le public avant de se séparer, puisque tu parlais que tu regardais encore Goldorak en faisant ton sport. La dépression postpartum, là, en fait, elle se vit comment?
Bah, pour l'instant, le partum n'est pas encore fait.
Vous avez déjà repris votre activité sur vos séries?
Ah oui, ouais, il faut. Ouais,
bien sûr.
Vivement
demain qu'on bosse.
J'ai personnellement un bouclage d'album pour fin décembre, début janvier, en gérant la suite de la tournée, ce qui est pas mal. Donc voilà.
En l'occurrence, je suis retourné dans mon monastère jusqu'au 15 janvier. Là.
Et en l'occurrence, moi, depuis le mois d'août, je suis sur Goldorak parce qu'il y avait pas mal de. On a voulu que tout le marketing, tout le commercial qui se fait tour soit vraiment à l'image de ce qu'on avait voulu faire. Donc j'accompagne Cana là-dessus depuis le début. Bon, on a monté l'expo ensemble, entre autres, hein, évidemment. Là, c'est pas du marketing, c'est des plaisirs en l'occurrence. Mais vous pouvez l'applaudir pour l'expo à propos.
Merci de tout.
Xavier, tu as quand même recommencé à écrire des scénarios il y a un certain temps là.
Moi, j'ai écrit le scénario il y a 4 ans. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que il y a un libraire qui m'a posé la question. Il m'a dit, quand on a fait un album comme ça, qui a un accueil aussi chaleureux du public, qu'est-ce que tu vas faire après? Et je lui ai dit, mais toujours la même chose, c'est-à-dire chercher à faire un meilleur album, pas meilleur, faire autre chose, mais faire un album, écrire une histoire. Et donc, par exemple, passer d'une aventure intergalactique, interstellaire avec des robots géants, à un procès historique dans un monastère avec 4 personnages, et puis voilà, ce sera super. Je pense qu'au contraire, il faut faire autre chose.
faire autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Et chaque aventure a sa propre histoire. Moi, je les vois comme des... C'est pas du postpartum. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez de vacances. Il y a ceux qui disent « Oh, je dois rentrer à Paris ou je dois rentrer chez moi. C'est nul, les vacances, c'est fini. » Et puis, il y a ceux qui disent « Ben, en fait, j'ai les souvenirs de ces vacances. Je les ai là, je les ai pour toujours. Et c'est le cadeau que j'emporte avec moi. Et maintenant, je peux faire autre chose. » Bon, moi, je préfère la deuxième option. Elle rend plus heureux. Voilà.
Bon, ben, je crois qu'on va quand même rester sur ces beaux mots. Malheureusement, pour la dernière question, il est quand même temps de libérer la scène et nos artistes, puisqu'on va vous retrouver quasiment immédiatement en dédicace.
Tout à fait.
Et donc, merci à vous cinq pour ce beau souvenir qu'on garde merci dans nos cœurs.
Merci.
Et merci à vous. Merci.
Cybernétique, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.